Bruit de Chine sur Radio Campus 106.6 jusqu'à 13h. Nous écoutons en ce moment une improvisation d'Elsa Godefroy de Mombine à la flûte et de Tsang Wei au Gusheng. Cette improvisation a été enregistrée à Pékin lors de la résidence dont nous allons parler ensemble pendant les 20 prochaines minutes. Alors Manuel Ruiz Vida est peintre, il fait aussi de la vidéo pour l'occasion, on en reparlera, et de la photographie. Elsa Godefroy fait du cinéma, de la vidéo, des installations et des performances. Tous les deux avec Bertrand Gaden, ils sont allés donc 6 semaines en résidence à Pékin. Ils ont découvert, comme on l'a dit tout à l'heure, le dynamisme de cet art contemporain à Pékin. Ils ne sont pas allés dans d'autres villes, enfin peut-être un petit peu Manuel parlera d'une autre ville, mais disons qu'ils sont restés principalement à Pékin. Ils ont aussi découvert les villages d'artistes et ils ont fait leur première exposition en Chine, Escape, au Beijing Today Art Museum. Je rappelle que ce voyage a été réalisé dans le cadre d'un projet de résidence croisée d'artistes en Chine initié par le Centre d'art plastique et visuel de la ville de Lille, avec le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais, la DRAC Nord-Pas-de-Calais, Culture France, Lille Métropole Communauté Urbaine, et avec la participation du Fresnois Studio National des Arts Contemporains, de Voyageurs du Monde, de X Consulting et de Radio Campus Lille. Parfaitement, Radio Campus était aussi partenaire de la manifestation. Donc Manuel Ruiz Vida et Elsa Godefroy de Mombine ont partagé cette résidence à Pékin avec Bertrand Gaden, mais qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui et qui sera dans un prochain Bruit de Chine. Alors, à tous les voyageurs qui reviennent de Chine, on dit « alors la Chine ». Eh bien, je vous pose donc cette même question à Manuel tout d'abord et puis à Elsa après. Alors la Chine.
Donc, tout simplement, c'était très impressionnant. À la fois pour la population, le modernisme de l'architecture et voilà la découverte de ce continent, de ce pays qui est tout à fait différent de ce qu'on peut trouver en Europe. Donc, oui, d'un point de vue modernisme, j'avais tout simplement l'impression, de façon un peu humoristique, j'en parlais avec Bertrand et Elsa, en arrivant à Pékin, il y avait donc une masse importante de brouillard, donc de pollution.
Comme aujourd'hui à Lille d'ailleurs.
Et la lumière nous a presque donné l'impression d'être presque comme dans une autre planète. Et donc évidemment, en matière d'architecture, ils ont pratiquement 10 ans d'avance sur nous. On a vraiment l'impression déjà d'être dans le futur, à travers les différents types d'architecture.
Donc en fait, votre voyage était retour vers le futur pour Manuel. Alors Elsa, votre impression
C'est après que le voyage fait son travail intérieur, je dirais, parce que sur place, évidemment, on est à la fois surpris, exalté, mais terrifié en même temps. Donc ces deux sentiments se mêlent ensemble et c'est pas évident à les surmonter, à les assimiler, à les digérer, même sur place, même s'il y a une distance. Et là actuellement je suis en train de me documenter, d'essayer de rassembler en fait les morceaux de toutes ces images, de toutes ces visions. Et je me suis sentie un peu comme un voyageur lointain en résidence d'artiste, mais perdu dans ses repères, comme on peut l'être dans cette planète dont tu parlais.
Cette planète
tout à fait
dans,
justement,
dans
la
brouillard.
Planète chinoise. Mais comme le disait Victor Segalen, hein, au début du XXe siècle, j'ai trouvé cette expression tout à fait juste. Il dit on passe de l'empire de la Chine à l'empire de soi-même.
Très bien.
Et vraiment, je ressens tout à fait ça, c'est-à-dire on en a tellement pris dans les yeux, dans l'estomac même, je dirais aussi. Hein, c'est autant l'esprit que le corps. On s'est mis en jeu par rapport à ces images. Que c'est tout un travail d'introspection entre son travail, entre les possibilités d'un travail, et ce qu'on a vu aussi dans l'art contemporain chinois, et comment on se situe et on trouve une place juste par rapport à tout ça.
En tout cas, c'est une nourriture pour longtemps. Qu'est-ce que vous avez ressenti tous les deux, donc Manuel nous l'a dit un petit peu, mais pas Elsa, en descendant de l'avion, juste quand vous avez mis le premier pied sur le sol chinois, vous vous êtes dit quoi ? en descendant de l'avion.
Bah, les trois premiers jours sont très exaltants.
Donc il a fallu trois premiers jours pour mettre les pieds sur le sol chinois.
au moins. Au début, il y a beaucoup d'enthousiasme. Et puis après ce fog perpétuel qu'il y a effectivement à Pékin, cette pollution, ça fatigue énormément.
C'est aussi le brouillard dans le cerveau.
Voilà. Et donc, c'était quand on arrive comme ça dans un pays, on est très dans cette ouverture là, assez incroyable. Mais on s'aperçoit au fil du temps que c'est pas du tout évident la communication. Ça a été en tout cas pour moi la partie la plus délicate. Et ça reste. Et donc, du coup, voilà, on est très enthousiaste et puis peu à peu ça retombe parce
oui,
que
on revient aux réalités.
On doit recharger des batteries pour avancer, mais la première image, effectivement, c'est comme on était quand même accueillis. Si on a un peu voyagé, on arrive dans un autre pays, on fait l'effort de s'adapter tout de suite, quoi. On est chinois, il faut devenir chinois pour vraiment rentrer dans le pays, quoi. Mais comme on ne parlait pas la langue, ça a été un point. Mais c'est ça.
C'est un vrai défi.
On se transforme en chinois, voilà. C'est...
Manuel, la tonalité générale de cette résidence à Pékin à Troyes, d'abord Manuel, ensuite Elsa. Une fois que vous avez essayé de devenir chinois en trois jours, ce qui n'était pas possible, donc après il a fallu faire des variables d'ajustement, se dire voilà, je suis là pour six semaines, j'ai un travail à faire. Comment ça s'est passé
Alors au départ, j'avais établi un projet qui était de me rendre à Pékin pour en particulier aller découvrir, visiter les usines industrielles. Et puis là-bas, tout simplement, ça m'a été impossible de me rendre à l'intérieur de ces usines et d'y prendre des photos, puisqu'il faut des autorisations. Et d'autant que les usines, la plupart des usines sont barricadées, sont cachées par d'immenses bâtiments. Et donc les seuls... La seule approche industrielle que j'ai pu faire, c'est en me déplaçant à l'extérieur de Pékin. Donc, j'hésitais un peu à y aller. Donc, c'était un village qui s'appelle Titito, donc qui est appelé aussi village cancer après avoir lu un article sur internet d'un journaliste au journal Le Monde.
Alors, c'est près de Tianjin. Hein.
C'est ça, c'est bien ça. Donc, je m'y suis rendu avec une étudiante parce qu'il a fallu avoir une personne qui puisse interpréter, traduire en chinois. Donc j'ai commencé à prendre quelques photos d'usines où les gens vivent au pied pratiquement des usines, dans des barricadements, dans des petites maisons, où c'est encore plus pollué qu'en Chine. Et tout simplement, la police est intervenue, ne m'a pas autorisé à prendre de photos. Et ils nous ont raccompagnés donc en voiture jusqu'à la frontière de Titito.
Bon, donc ça s'appelle manu militari. Du genre, vous êtes un petit peu indésirable sur le lieu.
Voilà, et en quelque sorte, c'est vrai que même à Pékin, par exemple, je prenais très souvent le métro là-bas. J'ai filmé à l'intérieur du métro, toujours avec cette interdiction, évidemment, puisque... À chaque fois que je voulais prendre quelques images, il y avait des vigiles, des agents de sécurité qui venaient m'empêcher de filmer. Mais malgré tout...
Vous avez tenu bon.
Voilà.
Bon, donc vous êtes en train de nous dire que vos images sont quasiment... étaient interdites, donc vous avez volé ces images.
En quelque sorte, oui.
Et pourtant, elles n'ont rien de... Enfin, je veux dire, j'en ai vu quelques-unes, elles ne remettent pas en cause la stabilité de la Chine, en tout cas.
Non. En fait, tout simplement, cette intention de filmer le métro, ça s'est fait pratiquement tout seul sans y penser, puisque je prenais le métro à une station, la station Tituchang, là où on logeait donc à la Beijing Film Academy, et je choisissais une station de métro où m'arrêter pour découvrir à chaque fois le quartier. Et puis au fur et à mesure, de façon un peu hasardeuse, instinctive, j'ai décidé de prendre des images. Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était intéressant. Donc c'est qu'à chaque station, l'architecture intérieure du métro est différente.
Oui, surtout qu'il y a plusieurs strates historiques de construction du métro, en fait.
Voilà, tout à fait. Et j'aime bien ces espaces, puisque c'est un espace où les gens marchent vite, où il y a du rythme, où il y a du mouvement de foule, notamment tous les soirs vers 18h, il y a les mouvements dessus peuvent durer 3/4 d'heure, c'est assez impressionnant. Et pourtant, j'ai pris le métro dans différentes villes européennes, notamment en Espagne ou à Londres ou à New York, et celui de Pékin est tout à fait différent. Donc au niveau de l'architecture, les circuits, puisqu'il y a tellement de monde à Pékin, qu'il y a des agents de sécurité qui parlent avec les haut-parleurs pour diriger la foule. Mmh. Et néanmoins, malgré le nombre considérable de personnes, ça se passe très bien.
Oui, bah,
et en même temps, on a
une
impression de sécurité.
Alors, vous êtes devenu un observateur privilégié pendant 6 semaines de ce qui se passait sous terre à Pékin. Alors, Elsa, la tonalité de générale de cette résidence à Pékin, qui s'est passée à 3, je le rappelle, là vous n'êtes que 2, comment vous l'avez ressenti ?
Ah, déjà, le fait de partir à 3, 3 artistes, je pense que c'est une donnée tout à fait intéressante, parce qu'on a pu communiquer entre nous sur les projets, sur nos réflexions, sur l'approche de l'art contemporain par rapport à effectivement nos influences directes et indirectes. Et moi, personnellement, effectivement, le dialogue qui s'est instauré avec Bertrand Gaden, par exemple, a été très porteur, parce que comme il est dans des installations in situ sur l'iconographie de la nature, et qu'il est allé dans les parcs, du coup il s'est trouvé parfois que j'allais aussi dans des parcs pour pouvoir rencontrer des gens et pouvoir être aussi près de cette population humaine, en fait, hein, c'est ça qui m'intéressait, puisque dans mon domaine je travaille vraiment sur le terrain de l'humain. Et le fait de faire appel à des interprètes chinoises et de m'intéresser à plutôt une population qui a participé à cette ascension économique sans pour autant en bénéficier, donc plutôt d'une population modeste. Du coup, j'ai été confrontée en fait à un rejet parfois de certaines interprètes qui, pour elles, c'était un retour en arrière, et alors que ces jeunes femmes voulaient plutôt s'intéresser à des personnes, traduire des personnes, des Chinois qui avaient réussi.
Ah, voilà. Ouais, c'est pas l'image qu'elles voulaient véhiculer,
voilà,
de leur pays.
Et je crois qu'aussi, ça c'est des retours qui ont été... on a pu en discuter aussi avec Manuel lorsque tu es allé dans cette ville dont il parlait, là,
Chiquito,
où justement cette jeune étudiante ne refusait cette image d'une Chine un peu une image assez dévastatrice, hein, de ce que peut être la Chine moderne et de cette poussée économique, hein, donc ça, cette confrontation, elle est difficile, parce que c'est toujours au niveau du dialogue, et qu'on est quand même, je trouve, l'humain chinois, enfin ce qu'il peut représenter, il est quand même très difficile d'accès.
Oui,
Et que tout a reposé, en tout cas mon travail reposait justement sur cette communication. Donc ils sont pas c'est assez difficile, voilà, de rentrer en force, c'est pas possible. Et du coup ils sont très discrets, très en distance. Donc il y a tout un protocole à respecter, on n'a pas forcément toutes les éléments pour utiliser à bon escient, avoir ces moyens-là.
Ah oui, pour avoir les clés, il faut du temps.
Voilà, et même ceux qui restent depuis longtemps, parce que j'ai pu justement rencontrer dans cette démarche de résidence des personnes qui vivent depuis plus de 20 ans en Chine, qui sont donc français, et eux-mêmes, même ceux qui travaillent à l'Institut français par exemple, me disaient que même en plusieurs années, en 5 ans, depuis 5 ans qu'ils sont là, c'est toujours aussi compliqué, c'est toujours aussi difficile, mais et c'est... en plus, les Chinois, c'est difficile de se faire inviter à la maison, donc les relations sociales sont vraiment pas évidentes, et en plus, un Chinois ne veut pas perdre la face, donc on s'est trouvé tous les trois à confronter à des moments où en fait je crois qu'on s'est peut-être mal pris aussi parce qu'on est plutôt on s'est trouvé français très latin et du coup vraiment une difficulté quoi, qui en fait a toujours été là depuis, je suis en train de dire des choses là, depuis le 18e, ça a toujours été cette difficulté
entre le français
a toujours été là, et en même temps
entre l'étranger je dirais
exactement, ouais. Et en même temps ça cultive quelque chose de très très profond.
Ça cultive une fascination.
C'est une fascination et un pouvoir de mystère, et c'est presque comme un pouvoir érotique, parce qu'on ne peut pas atteindre ça, et on essaye par des moyens.
Ça entretient le désir.
Ça entretient le désir, ouais, exactement. Donc c'est là-dessus, en tout cas, que moi je vais essayer de reposer mon travail suite à ces sentiments-là vécus et où j'ai essayé de trouver des choses. Et je vais juste lire un petit passage pour de livre qui illustre un peu ça, que je trouve assez dur, mais c'est ça en fait.
Donc c'est quel
Donc c'est extrait de La planète chinoise. C'est un récit donc de François Auter, ou je sais pas comment on dit, Carnet Nord, l'édition Carnet Nord, où lui en fait il fait tout un circuit à travers le monde, mais toujours par rapport à la Chine quoi. C'est vraiment des rapports de transversalité comme ça. Donc il part même en Australie visiter une université où il y a plein des étudiants chinois qui sont
ils cherchent le monde chinois à travers le monde,
et ça s'appelle La planète chinoise. Donc et partout dans le monde en fait ils sont présents, mais donc il va à Bangkok, à Phnom Penh.
Alors on vous écoute.
Donc les Chinois, au nom du pragmatisme, ne s'encombrent d'aucune considération morale. Leurs dieux sont des dragons, des forces terribles qui peuvent aussi bien amener en une fraction de seconde le mal que le bien, aussi bien la félicité que la souffrance, la ruine que l'abondance. Il s'agit donc de s'adapter en un clin d'œil à toutes les situations, les bonnes et les mauvaises, sans état d'âme. Ce pragmatisme absolu, il l'applique aussi bien dans la sphère privée que dans les affaires publiques. Je songeais à ce que m'avait répondu une amie chinoise devant laquelle je m'exaspérais de cette absence de distinction entre le bien et le mal. Elle me répondit : mon père me disait, sois bon, mais pas trop bon, sinon tu mourras, car ta place sera au ciel, pas sur la terre, et ne sois pas trop mauvais, sinon tu ne mériteras pas d'être sur terre.
Donc la terre plutôt que le ciel. C'est excellent, effectivement, c'est une
donc
merveilleuse définition de...
Voilà, j'essaie de trouver de petites... Mais du coup...
Et alors, du coup, moi, je me demandais, à l'écoute de cette définition, et puis ce qu'en pensait Manuel, pour essayer de rebondir sur cette définition du monde chinois. Et puis une autre question derrière, en fait, c'était l'un et l'autre, vous étiez déjà allé travailler à l'étranger, parce que peut-être que ça va avec...
Non, moi personnellement, c'était la première fois que je faisais une résidence à l'étranger.
Donc pour la première fois, c'est fort quand même. La Chine, oui. Tout d'un coup.
Donc c'est vrai que moi, j'ai rencontré des difficultés par rapport à donc ce changement finalement de projet, de ne pas pouvoir photographier d'usine et la barrière donc de la langue. Mais finalement, j'y allais dans l'intention de voir les choses. Donc finalement, tous les jours, je me déplaçais,
Oui, ça s'est bien déroulé, finalement, vous avez bien rebondi et
voilà, c'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de photographies et donc maintenant, de mon retour de Chine, j'ai emmagasiné un certain nombre de photographies qui témoignent à la fois des Chinois dans leur situation de déplacement dans la ville.
Mm-hmm. Oui, on est dans le déplacement et le mouvement avec vous.
Voilà, parfois on voit même des enfants en train de jouer au sol, des gens qui dorment.
Enfin, la vie, quoi.
Voilà, la vie. Alors, évidemment, en structurant la photo. Là,
Bien sûr. Alors, justement, vous avez été invité à la Chinese University de Hong Kong par le département d'histoire de l'art dirigé par Franck Vigneron, et vous avez présenté votre travail. Moi, j'avais envie de vous demander comment s'est passée cette rencontre avec des étudiants hongkongais et quel était votre sentiment, puisque vous étiez à Pékin, cette différence entre Hong Kong et Pékin. Comment vous l'avez ressenti, tout simplement?
Par rapport aux étudiants, j'ai pas vraiment senti la différence, puisque j'y allais dans l'intention effectivement de montrer mon travail pictural, mais en même temps j'ai emmené des photos que j'avais prises à Pékin, qui montrent à la fois, qui sont à la fois des photos, comme j'ai expliqué tout à l'heure, sur les Chinois dans la ville, et en même temps des photos plus personnelles qui renvoient à la peinture, à la couleur, donc différents types de photographies, à la fois objective et subjective. Maintenant, par rapport à la ville en elle-même, effectivement, on en parlait, j'ai préféré Pékin, puisque c'est beaucoup plus chinois, et Hong Kong, c'est beaucoup plus...
plus ouvert à l'occidentalisation, voilà, et à la mondialisation. Cela dit, ça galope vite à Pékin. Ça galope vite à Pékin, mais c'est vrai que... Donc, bon, après, là, on n'aurait pas le temps de rentrer dans les détails d'ateliers d'artistes et de démarches artistiques, parce que moi, je trouve qu'il y a vraiment une grande différence. Mais moi, j'ai envie de demander à Elsa, si elle devait décrire le quartier où elle habitait, où vous habitiez à Troyes, donc le quartier de la Beijing Film Academy. C'est un quartier, je trouve, assez représentatif du Pékin d'aujourd'hui.
C'est un immense campus... où on ne voyait pas les limites des constructions, parce qu'il y a encore devant la fenêtre de ma chambre, il y avait encore un bâtiment qui était abandonné, donc j'imagine que maintenant il y a déjà une construction nouvelle qui doit s'établir, mais c'est vrai qu'on avait, c'était un peu notre QG, donc on revenait un peu toujours là. Après, c'est tellement immense, et pour le moindre déplacement, c'est sûr, il faut compter 3 heures. Enfin, ça, c'est la moyenne de ce que fait un Chinois par jour. Donc, même nous, si on voulait se rendre dans un endroit pour vraiment explorer toute la chaîne, plus les plans sont très difficiles.
Oui, ça, c'est vrai que le sketch des plans, on va peut-être pas en parler.
Je crois que voilà, c'est une autre représentation du monde, en fait. Hein, qui, d'ailleurs, ouais. C'est pareil, hein, avec ce livre tout simple, France-Chine, quand deux mondes se rencontrent là,
Chez Gallimard,
ils expliquent justement que c'est vraiment les Occidentaux qui ont amené la façon de faire des plans, là, je sais plus comment ça s'appelle.
La cartographie.
Ouais, la cartographie aux Chinois qui n'avaient pas cette connaissance. Mais qui avaient d'autres connaissances liées. Ils étaient beaucoup plus en avance par rapport à l'astronomie, à la connaissance des planètes, enfin au système, plus. Mais pas là-dessus. Et on voit bien, enfin, il y a quand même des influences. Et ça, si on ne connaît pas cette histoire-là, on comprend difficilement.
Et aujourd'hui, les chauffeurs de taxi, c'est quand même tout un poème, parce que, effectivement, le plan, ils le prennent à l'envers, mais par contre ce qui est important, c'est si on va au nord, à l'est, à l'ouest ou au sud, et ça revient à rappeler leur connaissance en astronomie, puisque ils se réfèrent aux éléments naturels, mais en bout de papier où on leur dit il faut aller là, ça c'est pas...
Et quand ils arrivent à avoir de bonnes lunettes, hein.
Oui, ça en voilà. Plus. On pourrait faire une émission spéciale rien que sur les taxis à Pékin. Je pense que...
Vrai que les déplacements ont beaucoup tenu, et juste pour dire ça, là, j'aimerais travailler aussi là-dessus, parce que j'ai filmé sur les taxis, et je cherche à créer une installation pour donner l'illusion d'un monde clos sur lui-même et hors du temps. Donc pour ça, je sais que la radio, c'est pas très visuel,
mais
je vous ai amené un prototype d'arbre. Un prototype d'arbre en latex que vous pouvez voir là, mais que les auditeurs ne voient pas vraiment.
Non, il y a des espèces de petits trucs tout mous qui retombent du tronc.
Voilà, très organique. Donc ça, je veux le faire sur une arbre de 3 mètres. Mm-hmm. Et parce qu'en fait, avec les influences qu'on a vues d'art chinois, de l'art plutôt kitsch, pop, figuratif, j'ai envie de m'approprier ça et de travailler par rapport à ces histoires de fausses grottes, fausses pierres en carton, essayer de faire un espèce d'installation qui voudrait imiter la nature, alors qu'ils ont un sens très profond de la nature, mais toujours entre cette culture ancestrale et cette modernité... explosive. Voilà.
Donc, on n'a pas abandonné par amour des disparus, ou c'est la suite ou...
C'est pas vraiment la suite, parce que sur un temps de 6 semaines, c'est vraiment trop court, hein, pour aller puiser autant de paroles. Hein. Mais par contre, travailler sur ces sensations de cette communication, c'est ce rapport entre culture ancestrale et modernité, toujours sur le terrain de l'humain, et les papiers découpés, ça je voulais faire en différé, tout va se faire en différé parce qu'il y a quand même beaucoup de Chinois aussi en France et notamment des artistes chinois qui sont présents sur l'île et je trouve que du coup la relation se fait ici.
Donc du coup la résidence se continue
la résidence se continue, oui tout à fait, hein, parce que revenir en Chine par contre je le souhaite parce que je trouve que dans une résidence c'est pas vraiment comme un voyage complètement libéré de ses contraintes. Et là je trouve que quand on a, comme Manuel avait trouvé vraiment son il s'est vraiment accroché à quelque chose il a pu tenir son projet, même s'il a changé. Alors que pour moi, c'était plus délicat parce que j'étais plus en situation de performance. Donc, évidemment, voilà, il y a des limites. Comment s'engager on peut pas, j'ai pas pu aller au bout vraiment des choses. Donc maintenant, il faut rassembler les choses pour que ça, c'est une logique, hein, pour que ça soit un beau projet surtout.
Cela dit, à propos de performance, tout de même, vous en avez fait une au désert, si je puis dire.
Ah oui.
C'était quand même assez mémorable, cette expédition.
Ça, c'est à Tianman. Donc, c'est un village à 80 km de Pékin. On a réussi à aller grâce à Guylaine, qui habite depuis 21 ans à Pékin.
Et j'ai enregistré Guylaine, et donc nous pourrons, écouter son témoignage et son expérience en Chine dans une prochaine émission.
Donc ça, c'était intéressant de voir aussi entre ce que nous... Ça aussi, je vais l'ajouter, après je vais laisser la parole à Manuel par rapport à ça, mais ce qu'on relate, en fait, ce que les médias relatent de Pékin ne sont pas la réalité à Pékin. On était surpris. On se l'est dit de dire ah ben il n'y a plus de Diutong, oh là là ils ont tout détruit. Alors qu'en fait non, pas tout à fait. Il y a des rues, des petites rues encore qui sont préservées. Il y a évidemment des rues musées. Enfin là où ils ont construit le stade olympique, etc. Évidemment on est dans autre chose. Mais sinon il y a quand même quelque chose de on est complètement dépaysé quoi en allant là-bas quoi. Mais complètement quoi.
Mmh. Mais faut pas imaginer.
6 semaines c'est pas assez en fait. C'est presque pas assez. Parce qu'on était dans il y avait l'exposition, il y avait tout ça, donc on n'est pas assez complètement. Il y a aussi le stress du fait qu'on a un résultat et un objectif à atteindre. Donc quand on est dans un voyage, on n'a pas d'objectif à atteindre.
Oui, c'est vrai.
C'est tout l'art du voyage, justement. J'étais en train de dire ça, c'est vraiment être nomade. Vraiment, ce côté nomade, on l'a pas vraiment dans un. Parce qu'on doit utiliser le temps. C'est vraiment, et ça, c'est pas comme un voyage.
Vous repartez en vraie voyageuse un de ces jours. Peut-être Manuel aussi, pour prendre le temps, alors sans objectif, c'est-à-dire évidemment une exposition dans un musée à Pékin, c'est pas rien, il y a un enjeu, il faut la réussir, donc ça vous a pris effectivement quand même un peu de temps. Donc Manuel, vous auriez envie de revenir un petit peu comme ça pour explorer autre chose que Pékin peut-être, ou rester à Pékin et faire autre chose, comment vous voyez?
Mais je suis d'accord avec Elsa et Bertrand de... je trouve que ça serait intéressant le travail qu'on a, puisque évidemment, une fois revenu de Pékin, je considère que le travail c'est, moins de 50% de ce qui reste à faire, puisque je suis en train de travailler sur des grands formats, sur des peintures. En même temps, je suis occupé à travailler sur le montage vidéo que j'ai fait sur le métro de Pékin. Et puis, je vais commencer à développer une petite centaine de photographies de petit format. Donc, il reste beaucoup de travail à faire. Et je crois que l'objectif, ce serait intéressant de non pas seulement de le montrer ici à Lille, donc à des, comme disait Elsa, à une communauté chinoise qui habite ici, et évidemment aux Lillois, mais aussi pouvoir montrer le regard qu'on a eu chacun d'entre nous sur la Chine, donc sur Pékin en particulier, au peuple chinois.
Donc vous voulez faire un aller-retour dans l'autre sens, c'est-à-dire que, on ne l'a pas dit, mais en novembre donc 2009, vous allez exposer les travaux dont nous sommes en train de parler au Centre d'art de Lille, et si tout va bien, dans deux ou trois maisons folies lilloises. Donc là, ce sera en direction des Lillois, mais pendant que vous exposerez, il y aura deux artistes chinois sûrs qui vont venir, on espère trois, mais bon, ça, c'est des questions de budget qui sont pas de notre ressort. Mais donc, il y aura Zhu Jiong et Gong Lin. Et Gong Lin, ça m'amène à vous à vous poser la question. Donc vous avez fait des rencontres formidables là-bas, et aussi vous avez rencontré Gong Lin, qui est un professeur à la Beijing Film Academy, qui est un artiste extrêmement intéressant, que donc nous allons recevoir à Lille en novembre. Et donc vous souhaiteriez, par exemple, en 2010, eh bien, continuer à faire ce retour. Mais moi, je dirais que ça n'est pas obligé de finir, cette histoire avec la Chine. On vous a donné, je dirais, les moyens, dans un premier temps, des moyens, en tout cas plus institutionnels, de partir et de faire ce projet, mais l'idée, je pense, c'est que vous vous en empareriez et que, pourquoi pas, vous y retourniez plusieurs fois, et pour certains, la Chine sera peut-être la rencontre la plus marquante de leur vie, pour d'autres, ça sera une étape, mais en fait, c'est ça un peu l'idée.
Tout à fait, mais une chose qui est sûre, pour moi, en ce qui me concerne, c'est que le travail ne sera pas terminé.
C'est-à-dire
que lorsque l'exposition aura lieu, il est bien évident que je travaille sur plusieurs peintures en même temps. Elles ne sont pas toutes prêtes puisque c'est indéfini.
De toute façon, dans 3-4 mois, on refait un point d'étape avec vous. Vous aurez avancé dans votre travail et on verra là, à ce moment-là, où vous en êtes. Je voudrais terminer avec Elsa sur les rencontres. Quelles ont été vos rencontres marquantes ?
Mais justement, par rapport à ça, évidemment, j'aimerais bien revenir en Chine pour retrouver les musiciens avec qui j'ai collaboré et avec qui, justement, on a fait de l'improvisation musicale. Et j'ai été tout à fait enjouée, mais vraiment très enjouée, de cette liberté que les Chinois avaient. Ils ont tant besoin de, justement, cette expressivité, ils l'ont, mais cette liberté, ils la prennent tout de suite. Hein. Et ça a été un grand bonheur, en fait, de jouer avec eux, parce que en France, évidemment, ça existe, hein, mais il y a des espèces de fermetures, comme ça, de corporatisme, je dirais, que j'ai pas trouvé en Chine, en tout cas dans cet endroit, évidemment, de contacts qui sont venus en France, etc., de jouer comme ça avec quelqu'un. Bon, effectivement, il y a toujours de la négociation à voir, parce que revenir en Chine pour représenter nos travaux, comme disait Manuel, ça serait effectivement génial, mais il faut aussi que le dire, que la Chine ne s'engage pas et ne s'engage pas assez.
Non, tout est
pour
compliqué.
Qu'il y ait un échange de part et d'autre. Et c'est ça qu'il devrait faire. C'est-à-dire que si nous, on est venus en Chine, effectivement, pour cette exposition, dans le cadre de cette résidence, rencontrer ces artistes chinois, participer à l'économie chinoise, mm-hmm. il faut aussi que l'économie chinoise participe en France. Et ça c'est resté, je pense, puisque les projets vont continuer entre la ville de Lille et d'autres villes chinoises, comme à Shanghai, puisqu'il y a l'exposition universelle en 2010. Et là, il y a vraiment il y a quelque chose qui... C'est vraiment une faille. Et ça continue parce que en rencontrant la personne qui s'occupe à l'ambassade de France,
Sébastien Cavalier,
c'est pas Sébastien Cavalier, c'est un autre qui s'occupe plutôt du domaine de la cinéma, de la diffusion, des programmations.
Olivier
Delpoux. Merci. Eh bien, il nous disait ça exactement, que même dans le cinéma, les Chinois se disent, voilà, on est producteur d'un projet, et arrivé, les papiers sont signés, et arrivé au moment du film, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils participent aux autorisations, ils donnent des autorisations pour des autorisations de tournage, ils remplissent des choses administratives, et c'est tout. Mais ils ne s'engagent pas.
Non.
Et ça, c'est quand même fabuleux, quoi. Donc, ils gardent... juste pour conclure, j'ai retrouvé ça exactement comme ça se passait au XVIIIe siècle, avec les rois, où en fait, des deux côtés, chacun montrait ses trésors. Au niveau français, bon, c'était Louis XIV hein, qui a commencé à faire les premiers en faisant amener des jésuites là-bas. Et là, j'ai trouvé que ça n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on revient en arrière sur un fait comme la Chine a vraiment ce pouvoir économique. Et si ça ne change pas, il n'y aura pas vraiment de s'engager vraiment artistiquement. Bon.
Eh bien, c'est tout à fait vrai, mais on va être optimiste et on va se dire qu'on va arriver de toute façon à travailler avec eux. Par contre, on aura peut-être du mal à changer la mentalité là tout de suite en quelques années pour vos projets, mais bon, on va essayer. En tout cas, Elsa Godefroy de Montbine et Manuel Ruiz-Vida, merci.